Stéphane Gracier, je vous laisse venir. Karine Bouillet, que je n'ai pas vue. Voilà, pardon. Bruno Cossiol, vous êtes là. Jean-Charles Duplat, il n'est pas loin. Caroline Romero, et j'espère n'avoir oublié personne. Bienvenue à vous. Je suis confus. Alors, vous êtes RRH, et moi, je vous... Bon, alors, on va le préciser à l'oral, quand je vais vous présenter. Deux petites parenthèses préalables. Une première, on m'a posé la question, donc, comme elle vous intéresse, je la traduis dans les faits. On n'a pas prévu de klaxon, on va faire plus simple pour ça. Qui sont ceux parmi vous, je vous propose de lever la main, qui sont Bordeaux et périphérie, toute l'agglomération? Et on va en déduire, d'accord, c'est une bonne moitié de la salle. Voilà, l'autre moitié étant dans le périmètre plus élargi de la grande région. Deuxième question qui m'était posée, et là je vais prendre Stéphanie au vol. Ben, je vous laisse la poser d'ailleurs, la question sur la sous-traitance, la qualité, la sous-traitance, quid des sous-traitants? Je vous laisse formuler la question, chère madame.
Oui, effectivement, en tant qu'organisme de formation, nous faisons appel aux compétences de consultants sous-traitants qui ont eux-mêmes leur numéro d'existence. Et la question de départ, c'était de savoir si eux avaient l'obligation de se déclarer au Datadoc ou pas. Tout à fait. Et on avait cru comprendre que oui.
Alors, en fait, il y a deux approches. Le sous-traitant qui a un numéro de NDA lui-même, enfin, en tant que formateur, s'il veut travailler avec des financeurs en direct, voilà, il faut qu'il se déclare, qu'il fasse la démarche. Imaginons un sous-traitant, voilà, vous êtes le porteur, voilà, vous contractualisez avec un sous-traitant. La question, c'est est-ce que vous allez l'obliger à se datadocker s'il ne l'a pas encore fait? C'est plus ça la question. C'est dans la contractualisation que vous avez avec lui, comment vous sécurisez la chaîne de la qualité de la formation. Parce que clairement, c'est le porteur qui porte la qualité de la formation. Donc en cas de contrôle, on va venir vous voir vous. Si on voit que la chaîne n'est pas maîtrisée avec votre sous-traitant, c'est pas lui qu'on va sanctionner, entre guillemets, hein, soyons. On va faire porter la responsabilité au porteur en disant vous devez maîtriser votre sous-traitant. Donc c'est une question que vous devez vous poser. En effet, est-ce que j'oblige mon sous-traitant à faire? Ce n'est pas obligatoire, mais comment je sécurise la chaîne complète de la qualité de ma formation?
Donc voilà la bonne question. Merci beaucoup Stéphanie d'être toujours là pour nous éclairer. Alors, je propose de vous présenter nos intervenants si vous le permettez. Donc merci à eux d'abord. Caroline, chère Caroline, on vient de dire... Alors, petite précision, Caroline, vous n'êtes pas directrice opérationnelle, vous êtes chargée de mission ressources humaines chez Ingéliance, qui est un groupe de bureaux d'études spécialisé dans l'ingénierie, un peu plus de 500 salariés, voilà, 60% d'ingénieurs, vous travaillez essentiellement pour de grands donneurs d'ordre, l'aéronautique, l'industrie navale, le spatial, la défense, l'automobile. Ingéliance, c'est 13 implantations, si mes chiffres sont bons, sur le territoire national. Jean-Charles Duplat, à l'autre bout de notre table ronde, vous êtes dirigeant de plusieurs entreprises. Vous êtes d'abord entrepreneur, si je veux vous définir. Multi-entrepreneur, première entreprise 86 avec la création d'une première entreprise devenue une SS2I avec près de 40 salariés. Aujourd'hui, dans les différentes sociétés que vous animez, que vous opérez, au total une cinquantaine de salariés, on a une entreprise spécialisée dans la numérisation, une petite ESN, un ensemble d'organismes de formation qui constitue le premier centre de formation à la bureautique en Aquitaine. Si mes informations sont justes, une bonne vingtaine de salariés, dont plus de la moitié de formateurs. Après une période difficile 2013-2014, vous êtes doté de la compétence d'une RRH à temps partagé. Aujourd'hui, vous investissez, on en parlera ensemble, sur le volet RH. Et je précise que vous êtes également vice-président du CIRPIN, qui est un syndicat régional que certains d'entre vous connaissent peut-être, des professionnels de l'informatique et du numérique. Allez-y, vous avez un micro, je vous en prie.
Et le CIRPIN fête ses 50 ans, ça a été créé en 67, le vendredi 24 novembre. Donc vous êtes tous invités pour fêter ses 50 ans.
Voilà, c'est j'en sympa, profite. Il y a un côté sympa et familial dans la chose. Donc merci pour l'invitation et bon anniversaire.
Et puis 50 ans aujourd'hui dans le numérique, ça se souligne.
Ah, c'est pour le mois, mais on était sur de la... Mais on était sur la genèse. Stéphane Gracier, vous êtes entrepreneur, vous aussi, autodidacte, m'avez-vous expliqué. Vous êtes aujourd'hui spécialisé dans la conception de sites internet et plus largement, à la différence d'une web agency, vous concevez les sites, mais vous produisez également du contenu. Vous travaillez sur le référencement ?
Alors,
Ou j'ai rien compris. Allez-y.
Et une petite subtilité, bonjour. On ne fabrique pas de sites, on travaille pour
des
gens qui ont déjà des sites,
ouais.
Pour des agences web.
Et le fromage, alors parlez bien dans le micro par contre. Je vais vous donner un truc, si vous ne savez pas faire, vous le posez sur le menton.
Et comme ça je suis sûr que...
Voilà, l'ingénieur du son sera ravi.
Je vais essayer de parler correctement. Donc on fait ce qu'on appelle de l'acquisition de trafic pour les sites web. Donc on accompagne nos clients dans des stratégies de croissance numérique, enfin, grâce au numérique, avec un prisme très orienté sur le référencement dit naturel. Maintenant, on n'a pas de limite sur les voies d'acquisition de trafic. Et effectivement, on est sur un métier qui est nouveau, qui a moins de 10 ans, qui est en évolution perpétuelle, qui, il y a 10 ans, pouvait être supporté par une personne. Et aujourd'hui, j'ai plus de 5 métiers au sein de mon entreprise pour être capable de faire ce métier de référenceur.
Et parmi ces métiers, vous faites aussi de la formation. Alors, c'est une petite partie de votre chiffre d'affaires, on a dit 10% environ.
Oui, c'est anecdotique pour l'instant.
Ouais.
On est organisé, on a à peu près 30% de notre temps qui est consacré à la recherche et au développement avec des laboratoires, notamment sur tout ce qui touche à la sémantique, au calcul de similarité, l'intelligence artificielle. Ensuite, on met en application chez nos clients et notre vocation, c'est la transmission par la suite. En temps réel, des connaissances.
Et le fait que ce soit une petite activité chez vous ne vous a pas fait négliger la chose, puisque vous êtes data-docké, vous êtes rentré dans la démarche.
Oui, puisqu'on travaille avec des,
on en parlera tout à l'heure.
Avec des grands comptes, on a voulu...
aller jusqu'au bout de la démarche qualité. Super. Karine Bouillet, chère Karine, vous représentez la grande région Nouvelle-Aquitaine. Vous appartenez, je crois, à une mission qui dispose d'une mission transverse d'animation sectorielle. Et vous, vous avez en charge l'ensemble des pôles formation emploi de la région sur numérique et connexe, le multimédia, l'animation, la fibre optique, les métiers du tertiaire, les arts et la culture.
C'est ça.
Quel beau mélange.
Tout à fait. En fait, on a pris le choix, dans le cadre de la fusion de la région Nouvelle-Aquitaine, dans notre maintenant grande direction et qui est devenue en fait un pôle, le pôle formation-emploi, de créer une direction unique qui est une mission d'appui avec des compétences transverses. Tant au sein du pôle formation-emploi, donc qu'on soit sur la direction de l'apprentissage ou la direction de la formation continue, et ensuite aussi avec les autres pôles et les autres directions de la région.
Parfait, excellent. Cher Bruno Cossiol, vous êtes ingénieur de formation, spécialiste du nucléaire. Actuellement dans le nucléaire civil, vous travaillez, vous êtes détaché par une société de prestation de services, le groupe Alten. Est-ce qu'on l'a dit ? Bon, on l'a dit. Et vous êtes chez EDF, on dit tout sur la slide, donc il n'y a plus de secret. 40 implantations en France, 24 000 salariés dans le monde. Et vous êtes un membre actif de la CPEFP depuis un an. Vous appartenez au collège salarié. Vous représentez, je crois, la CFDT.
Oui, tout à fait.
Je n'ai pas commis d'impair.
C'est exact.
D'ailleurs, on peut dire deux mots de la CPEFP. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette CPEFP ?
Au sein de cette commission paritaire, on se retrouve piloté par le FAFIEC, avec d'une part les organismes sociaux tels que ceux représentés par le patronat, et nous, les organisations syndicales telles que CGT, CFDT, CFTC. Et nous sommes présents aujourd'hui pour montrer notre intérêt sur le développement économique et aussi le développement de nos valeurs.
Vous êtes le bienvenu. Et d'ailleurs, dans l'histoire, si vous avez suivi l'histoire du FAFIEC, il y a eu un maillage du territoire progressif. Et le dernier né, je crois que c'est l'antenne de Bordeaux, avec un périmètre large aujourd'hui, territorial. Et au-delà des ressources humaines, des équipes de l'antenne sont responsables et les équipes qui vont rencontrer sur le terrain, il y a aussi une représentation politique à travers cette commission paritaire. Alors, on a dit paritaire, elle est donc, comme vous l'expliquiez, animée, gérée, dit-on, par les deux parties de l'ensemble de la famille du paritarisme, les partenaires sociaux, représentants des salariés et des employeurs. Sur quoi travaillez-vous ? Quel sujet abordez-vous en CPEFP ?
On travaille sur la façon dont vont être investis les différents moyens financiers dont nous disposons, Un exemple concret, on va se retrouver demain à la directe sur un sujet qui est le suivant, c'est développer les ressources humaines pour les TPE-PME qui en ont besoin. Donc, nous, on est totalement pour hein, que les entreprises embauchent et développent leur masse salariale, mais avec notre objectif de valeur sur lesquels on tient, et on tient que ce soit un critère sur lequel nous serons vigilants.
D'accord. Et ce qui veut dire, parce que la CPRFP est une grande sœur nationale qui lui préexistait, la CPNFP, qui, comme son sigle l'indique, est nationale. L'intérêt de la représentation territoriale, c'est de coller à la réalité des tissus économiques et des bassins d'emploi. C'est le moyen aussi, j'imagine, de travailler avec les acteurs du terrain, je pense à la région. Politiquement, dans le dialogue avec la région, il y a aussi une représentation paritaire sur le territoire. Petite question, j'espère pas indiscrète. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans la CPRFP ? Comment, un jour, on décide d'investir sur le sujet formation comme cela ? Qui est exigeant, vous l'imaginez, quand on débarque sur le sujet formation, il y a quand même une phase d'apprentissage, techniquement.
Oui, effectivement, pour ce sujet de formation, on a été nous-mêmes formés, au sein de nos différents syndicats. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie ? Parce que je commence à avoir une certaine expérience de terrain, tant dans les entreprises. On voit que c'est très important, là je vois que le sujet c'est se projeter en 2020, or il y a beaucoup d'entreprises par la force des choses qui ont des visions à court terme, et nous on aimerait bien que côté formation ce soit élargi et qu'on soit plus qu'on s'adapte mieux. Voilà, c'est cette envie là qui m'a donné envie de m'investir au sein de la commission paritaire.
C'est une bonne idée. Bravo. Sur la formation, je reviens avec vous, Stéphane Gracier. Votre regard général sur le sujet de formation, d'abord, on l'a dit, c'est une petite partie de l'activité économique, mais avec un peu plus de recul. Comment vous percevez l'importance du sujet ? Vous me disiez, c'est dans mon ADN.
Oui. Bah, c'est-à-dire que tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, on le doit à nos pères, hein, qui ont creusé depuis la naissance de l'humanité. Je pense qu'il faut déjà remettre au cœur du débat le fait qu'on est dans la technologie.
Oui.
On est dans une industrie dématérialisée qui est en train de prendre la place de l'industrie classique, avec toutes les promesses de l'industrie d'autrefois, mais qui permettent, sur le plan civilisationnel, de changer pas mal de choses.
Oui.
On peut sortir des grandes villes pour rétablir, en fin de compte, de l'industrie dématérialisée, créer des valeurs, de la valeur ajoutée un peu partout dans les campagnes. Par contre, la connaissance évolue extrêmement vite. On voit une accélération de l'obsolescence de la connaissance dans nos métiers, qui fait que quand on est dans une culture de construction, en fin de compte, de programme tel que c'est fait aujourd'hui, on n'a pas fini d'écrire la préface du programme que la compétence est déjà obsolète. Donc aujourd'hui, on pense qu'il est plus important d'acquérir la capacité à trouver le bon savoir au moment où on en a besoin, pour pas se polluer avec et faire changer de savoir au moment où il évolue. Ce qui veut dire que le mode de fonctionnement aujourd'hui, tel qu'il est permis, ne nous offre pas la possibilité de faire appel à la formation classique. J'interviens à l'université.
Vous pensez à la formation initiale ou au système d'éducation ?
J'interviens en formation initiale et en formation continue au sein de l'université. Et on constate, enfin moi déjà je parle pas de formation, je parle d'information, je sais, je vais choquer tout le monde, mais je donne des informations aux stagiaires et je leur explique que la formation va se passer le soir quand ils vont rentrer chez eux et qu'ils vont aller creuser, qu'ils vont pratiquer, mettre en pratique. On a fait pas mal d'avancements sur les mécanismes cognitifs liés à l'apprentissage, et aujourd'hui on s'aperçoit que la mise en pratique est fondamentale. C'est-à-dire que j'ai toujours cru à l'apprentissage et j'y crois plus que jamais. Le problème, c'est que nous, en tant que toute petite entreprise, on est au fait vraiment de l'évolution, puisqu'on fait des travaux de recherche et développement. On a des chiffres, on a des données qui sont les nôtres, puisqu'on fait nos tests. On ne bâtit pas nos formations sur des données qu'on a trouvées à droite à gauche qui sont déjà obsolètes, mais en temps réel sur les tests qu'on fait. Et on démontre tout ce qu'on avance. Par contre, on ne peut pas, de par notre agilité, de par la fragilité financière de nos structures, on ne peut pas consacrer du temps à de l'ingénierie de la formation, pour être capable de fournir, avec toutes les prérogatives nécessaires, des programmes qui correspondent à ce que les pouvoirs publics, etc., attendent. Et le gros souci est là, donc il n'y a aucune animosité. Hein.
Non,
l'idée, c'est vraiment de poser le débat et de dire voilà, comment on va faire évoluer le schmilblick tous ensemble pour trouver des solutions, pour créer de la valeur et bien plus largement que sur le territoire de Bordeaux où on a une vision
ou
plus large.
Ou la grande région. Sachant que vous, vos clients, c'est quoi ? Des PME, des TPE ?
Alors, on est sur de la grosse PME. Challenger qui veulent manger les grands groupes qui n'ont pas pris de place quoi.
Au moment sur où il fallait digital. Faire
sur le web, grâce au web. Hein, quand on parle de croissance numérique, c'est vraiment c'est de la croissance grâce au numérique.
D'accord. Alors vous les formez, vous les accompagnez.
Alors soit on les forme et on les accompagne, ou alors on fait de la presta à 100%.
Et vous prenez le travail. Ok. Donc ils internalisent une partie de la compétence ou pas finalement.
De toute façon, c'est on fait toujours du transfert de compétences puisque ça évolue très vite. Donc notre vocation c'est de faire de la R&D et au moment où c'est transmissible, on transmet pour toujours avoir de la valeur ajoutée à amener avec des éléments de différenciation qui découlent de la R&D. Mais qu'on peut pas transmettre tout de suite. Ouais. Faut qu'on les teste, etc. Mmh. Et tout n'est pas transmissible. Apprendre à quelqu'un une méthodologie de rédaction web avec des outils avancés, c'est possible. Expliquer en 3 jours le calcul de similarité et les cosinus de Stalton, ça va être un peu plus compliqué.
Ouais.
Donc, tout n'est pas transmissible.
Ouais.
Voilà. Par contre, ce qui peut être transmis est automatiquement transmis parce que
ça fait partie de la suite de la prestation finalement.
Je veux pas monter une multinationale.
Ouais.
Donc, comme mes clients vont croître beaucoup plus vite que nous, on forme les jeunes qu'on envoie chez nos clients en tant que relais pour avoir un travail qui est poursuivi et pour qu'ils puissent par la suite monter les équipes directement chez les clients.
Alors vous me disiez à titre anecdotique, en préparant la rencontre, que vous aviez régulièrement des clients qui ne demandaient pas de prise en charge et qui autofinançaient.
Oui, on a 50% de nos clients qui ne passent pas par les OPCA.
D'accord. Ça existe et ça a conduit à s'interroger sur la question stratégique qu'on posait tout à l'heure, Datadoc ou pas, vous avez fait le choix du Datadoc.
Je consomme aussi de la formation en interne, hein, on est toujours en carence. On est toujours en carence parce que forcément on se forme auprès des laboratoires avec lesquels on travaille. On est toujours en carence de temps de formation, donc on autofinance nous 75% de nos formations, clairement. On autofinance notre R&D et c'est par faute de moyens administratifs pour faire appel à toutes les aides auxquelles peut-être on pourrait prétendre, mais on a.
Il y a peut-être des choses dans l'accompagnement où on pourra vous éclairer. On change de dimension, Ingélience. On est sur une entreprise beaucoup plus importante. Quel est le regard, quel est le rapport chez Ingélience avec le sujet formation ? Comment?
Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est un sujet bien évidemment très important, puisque chez nous, comme vous l'avez présenté, on a majoritairement des personnes qui ont déjà d'une part un niveau de formation élevé, des techniciens Bac+2 à ingénieurs Bac+5 doctorants, et que clairement notre force, c'est l'humain chez nous, puisque on compte énormément sur les compétences de nos collaborateurs pour pouvoir suivre les prestations intellectuelles que l'on mène auprès de nos clients, puisque voilà, on fait principalement de la prestation intellectuelle, donc la force, c'est la matière grise.
C'est les cerveaux, vous
voilà,
me disiez.
C'est les cerveaux de nos collaborateurs, et forcément, ça passe par le maintien des compétences, et on est aussi sur des sujets à forte technicité, donc on a besoin
et ça évolue, de constamment former. Stéphane,
effectivement, comme je vous le disais à juste titre,
il faut suivre tous les jours.
Voilà, ça évolue énormément, donc voilà.
Alors, vous avez été, je crois, jusqu'à créer une école interne.
Oui, tout à fait. Une école de formation Ingénieurs Training, tout à fait. Alors, on travaille en partenariat avec des organismes de formation externes. On est sur de la co-animation avec un référent entreprise et puis un organisme externe qui vient amener son expertise sur le sujet. Et aujourd'hui, on a créé différents cursus, principalement sur le management, la gestion de projet. On a quand même formé à peu près 140 personnes. La force commerciale aussi. Et puis là, maintenant, on va un petit peu plus sur le technique. Voilà. Alors pourquoi ce choix de formation, d'école de formation interne ? C'est pour être au plus près, répondre au plus près à nos problématiques en matière de formation et pouvoir avoir une offre de formation qui soit totalement en adéquation avec les problématiques qu'on rencontre auprès de nos clients, de nos marchés localement, et pouvoir construire un programme de formation qui répondent à des cas concrets que l'on va rencontrer au quotidien dans nos activités.
Petite parenthèse que j'ouvre, puisque vous êtes organisme de formation, c'est intéressant aussi dans l'évolution du marché. On crée un organisme de formation interne, mais on le fait en partenariat, alors ou sur l'ingénierie pédagogique ou sur les contenus eux-mêmes, avec des gens dont le métier est la formation. Finalement, c'est peut-être une évolution, une tendance nouvelle sur le marché, le fait de s'approprier une partie et de le faire en lien avec des...
Oui, c'est vrai que je pense que ça permet d'avoir une offre de formation vraiment adaptée à la demande, à la problématique de l'entreprise. Ouais. Voilà, mais après, on n'a pas
forcément... Il y a le savoir-faire des formateurs.
Exactement.
Et il y a votre culture interne.
On a des fois les compétences en interne, mais très souvent, on a besoin d'une expertise spécifique. Et puis, bon, le métier de formation, c'est aussi un métier. Donc, voilà, on a besoin aussi des organismes de formateurs et des formateurs professionnels qui sont assez cadrés, notamment sur l'ingénierie pédagogique.
D'accord. Vous faites du certifiant diplômant ou pas chez vous ?
Non, pas pour l'instant.
Pas encore. Et la personnalisation de la formation chez vous, vous travaillez, vous accompagnez, je ne sais pas, sur de la VAE ou des...
Oui, tout à fait. On accompagne des collaborateurs. On a déjà accompagné plusieurs collaborateurs sur des diplômes d'ingénieurs qui étaient techniciens pour évoluer. On a fait de la VAE l'année dernière. Mmh. Et la personne qui a fait sa VAE, on l'accompagne aujourd'hui pour qu'elle puisse valider son diplôme d'ingénieur. Donc cet accompagnement, il se fait au cas par cas, en fonction de la motivation du collaborateur, des opportunités aussi d'évolution en interne. Et on essaie effectivement d'apporter des réponses, d'accompagner nos collaborateurs dans leurs évolutions.
Il y a un projet de cursus pour la formation des formateurs ?
Oui, on a effectivement le projet aussi de former certaines personnes qui font déjà de la formation en interne, mais de les former vraiment sur un petit peu plus le métier, entre guillemets, ou la méthode pour être formateur en interne, notamment sur des sujets techniques.
Bien sûr. Voilà. Comment vous choisissez vos prestataires de formation, vos EF ?
Alors, il y a certains prestataires qu'on a identifiés depuis longtemps et avec qui on a l'habitude de travailler sur certains sujets, donc on fait régulièrement appel à eux. Ensuite, des fois, ça peut être des gens qui nous contactent ou qui nous sollicitent et on a déjà les contacts, on les rappelle pour faire des devis. Mmh. Internet aussi est quand même une grande source de sourcing. Et puis il y a aussi aujourd'hui des prestataires qui contactent les entreprises, qui ont recensé des organismes de formation, négocié des prix et qui proposent
ces places de la formation, c'est
notamment ça via ces personnes de faire appel à des organismes auprès de qui ils ont déjà validé la qualité aussi de la formation, le contenu et un tarif négocié.
Parce que vous, il y a un travail sur le sujet d'ailleurs. Je crois que vous assurez la traçabilité, d'évaluation et finalement, quand vous commencez à travailler pour un EF, vous validez si...
Oui, on fait des évaluations de formation, effectivement,
et vous le suivez.
À chaud. Et quand les évaluations sont mauvaises, ce qui est relativement rare, je vous rassure, mais ça arrive à ce moment-là, bien évidemment, on fait aussi notre propre sélection par rapport à la qualité de la formation.
D'accord, ok. Je me tourne vers un formateur, Jean-Charles Duplat. Est-ce que vous avez un micro ? Je vous le donne. Alors, la formation, l'activité formation chez vous, on a vu certifiant diplômant, tiens, c'est un truc que ne fait pas Caroline chez Ingéliance, c'est un élément du marché. Vous en êtes où sur le sujet dans votre offre ? Est-ce que c'est des choses qui ont évolué ou pas ?
Oui, en fait, on a deux axes, la formation continue standard, on travaille d'ailleurs avec Ingéliance, mais pour des formations de type bureautique, tout simplement, un ou deux jours.
Ouais.
Et alors, bon, c'est un métier, la formation, que j'adore, parce que comme l'a dit madame, normalement, on a un bon taux de satisfaction. Un mauvais centre, c'est 98, et puis un centre normal, c'est 99.
Ça va. Les standards sont...
Ça va. Par contre, on a une visibilité, quand on est centre de formation, à un mois et demi de chiffre d'affaires, puisque c'est du court terme. Là où on peut changer un petit peu, inverser la tendance, c'est en faisant des formations longues, donc des formations certifiantes. On fait des formations sur 4, 5, 6 mois.
Ouais.
Et puis on fait aussi passer des VAE, puisque ça va de pair. Le problème de la VAE aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de centres qui font passer, enfin de jurys pour faire passer les VAE.
Ouais.
L'accompagnement est difficile. Nous, on en profite. Dès qu'on a un jury pour un type de formation, eh bien, on l'annonce et on a chaque fois une ou deux personnes qui viennent passer leur certification, leur VAE.
D'ailleurs, on parlait du métier de formateur et de la formation métier de formateur. Vous avez lancé une offre sur le sujet, vous me disiez ? Ça fonctionne très bien.
Oui, mais si vous dites tout.
Je sais pas.
Non,
on
j'ai prévu la vérité,
on est entre nous.
D'aller voir madame après pour lui expliquer comment ça fait.
Oui, ben parce que ça, c'est. Alors, est faite.
Mais c'est bien que, qu'un opérateur, enfin, qu'un utilisateur comme Ingélias y pense, mais ça, ça rentre dans la formation tout au long de la vie.
Ouais.
Voilà. Et effectivement, alors moi d'abord, j'ai des formateurs qui ont fait de la bureautique pendant 20 ans. Ils aiment ça. Ils sont bons, mais s'ils pouvaient changer. Et donc, j'en ai deux qui sont passés formateurs de formateurs d'adultes. Et ça se passe très bien. Et on a lancé une formation longue. C'est pour ça qu'éventuellement, je pourrais vous donner quelques éléments. Donc, sur 5 mois. Et on fait 2 sessions par an. Et on a à chaque fois une dizaine de personnes. Les numéros 1 là-dedans, c'est l'AFPA.
Ouais.
Mais ils n'arrivent pas à fournir parce que... Bah,
tant les besoins sont importants, donc...
C'est un phénomène de mode, là, en ce moment, parce qu'on découvre ce nouveau métier et ça permet à des tas de personnes de changer de métier. Alors, c'est plutôt des tranches 40-50 ans qui ont envie de changer de métier et qui connaissent bien leur métier et qui se disent, eh ben, tiens, là, je vais l'apprendre aux jeunes. J'ai reçu un chariste, ça m'a étonné parce que alors, un petit gars qui fonçait, chariste, je lui dis, celui-là, il va être formateur, je ne sais pas comment il va faire. Mmh. Et bien, en fait, il n'arrêtait pas de râler quand il rentrait chez lui auprès de sa femme en disant, ah, les jeunes, on ne les forme pas, la sécurité. Bon, et il a passé avec brio son certification et maintenant, il est auto-entrepreneur, il travaille pour 3 grands centres de formation de charistes et de conducteurs.
Il fait du cassesse.
Il travaille à plein temps et il a réussi sa reconversion.
Alors, ce n'est pas le métier le plus facile, mais humainement, c'est un métier qui attire et qui est suffisamment enrichissant pour susciter des vocations. Même si vous parlez peut-être des fêtes bod, il y a quand même, c'est des métiers qui...
Oui, mais ça n'existait pas il y a 4 ou 5 ans. Oui,
donc c'est intéressant comme phénomène.
Comme ça, là maintenant, il y a, je pense, une accélération. Je découvre un petit peu ce projet chez Ingélias, mais je pense qu'il y en a partout. Vous avez des campus aussi. Hein. Vous avez pas mal de grandes sociétés qui font leur campus aussi, et donc qui ont besoin de formateurs internes. Donc il y a des besoins.
Alors vous-même, au-delà de votre métier de prestataire de formation, d'offreur, vous avez eu, on l'a dit tout à l'heure, enfin très rapidement, envie de progresser sur le volet RH. Et je crois que vous avez bénéficié notamment d'un accompagnement RH pour votre activité. C'était quoi l'idée? C'est inattendu, mais c'est intéressant en termes de maturité. Le fait de vouloir grandir et de traiter le volet ressources humaines.
Non, en fait, c'est moi en tant que patron de PME qui m'occupais des RH.
Ouais, vous y êtes où?
Et j'ai depuis maintenant 5 ans une RH. D'abord, c'était un cinquième, après 2 cinquièmes, maintenant à mi-temps.
Ouais.
Voilà, c'est un accompagnement. Alors, évidemment, on a développé en parallèle des formations RH, puisqu'on avait la matière première sous la main.
Qu'est-ce que ça vous donne que vous ne pouviez pas faire avant? Je ne sais pas, sur la structuration des process, les entretiens, les... C'est les perspectives de carrière, c'est la visibilité que vous avez sur vos ressources.
C'est un meilleur dialogue social en interne.
D'accord.
Hein, c'est comme, par exemple, les entretiens pro, on les a fait facilement en temps et en heure, ce qui est pour une PME pas mal.
Oui,
et,
absolument.
Et moi, en tant que patron, j'ai pris un grand plaisir. Parce qu'on ne discutait pas salaire, évolution, mais on discutait qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et c'est un discours sympa, et c'est avec ma RH que j'ai fait ça, et c'est super.
Excellent. Karine Bouillet, je me tourne vers vous. Alors, on va peut-être dire 2 mots de la stratégie de la grande région Nouvelle-Aquitaine en matière de formation continue. Souvent, la région était perçue d'abord comme un commanditaire, un financeur important. Elle n'est pas que ça.
Alors, elle reste quand même un financeur très
on
important.
A ajouté des choses.
Quand même, malgré tout. En fait, on fait partie des financeurs.
Ouais.
Par contre, nous n'utilisons pas le Datadoc. Donc, nous faisons partie des financeurs qui n'utilisent pas le Datadoc. Par rapport à la question de tout à l'heure d'une personne qui disait Aquitaine Cap Métier, donc qui est le Carrefour en fait de l'ancien territoire Aquitaine, m'a demandé une attestation comme quoi j'étais inscrite au Datadoc. Donc, ce qui prouve qu'aujourd'hui, en fait, il y a une prise de conscience quand même de la part des autres financeurs que le Datadoc a une véritable utilité.
Oui.
Voilà. Donc, je pense qu'à terme, si le GIE des OPCA va rencontrer l'Association des régions de France,
ça
pourrait peut-être faire quelque chose.
Ben,
ça pourrait peut-être faire quelque chose.
Alors,
quand
on n'a pas évoqué le sujet, mais c'est
particulièrement intéressant. Mais tant pour les organismes de formation que même pour nous en tant que région quand on est en fait sur l'instruction des marchés publics parce qu'aujourd'hui la majorité de l'achat de la formation au conseil régional, c'est quoi? C'est du marché public. C'est un appel d'offres, c'est le programme régional de formation. C'est un outil qui est assez lourd, puisque en fait, avant de voir une offre paraître sur un territoire, il y a un an et demi, voire parfois deux ans de travail avant que cette offre paraisse. Donc quand on nous demande d'être réactifs, nous, notre capacité à réagir, en fait, on a, quand on est rapide, c'est un an.
Ce qui est un vrai sujet, si je suis industriel, je suis une entreprise qui a une opportunité de marché, qui veut développer sur un des territoires de la grande région une activité économique, comment est-ce qu'on peut répondre dans ce contexte?
Alors, dans ces cas-là, en fait, on a aussi d'autres outils de financement que le programme régional de formation. Donc, des outils où, généralement, on n'identifie pas particulièrement que la région est financeur, puisque c'est Pôle emploi qui va les porter. Donc, on pense au POEC et au POEI, puisqu'il faut quand même savoir que dans le cadre, en fait, de contrats d'objectifs, on a, en fait, des contrats de branche, avec les branches, et on finance... Et on est amené à financer en fait des actions de formation qui sont portées par les OPCA. Mmh. Et donc, via ce chemin un peu détourné, la région en fait intervient en cofinancement. En fait, la région est globalement sur la formation professionnelle. C'est le cofinanceur qu'on retrouve à pratiquement toutes les étapes.
Et c'est ça qui est intéressant de percevoir. Quand je disais initialement que vous étiez d'abord perçu comme un acheteur de formation pour les demandeurs d'emploi, enfin, tout ça est assez schématique. Le vrai positionnement aujourd'hui, c'est cette espèce de rôle d'ensemblier. Je garde cette compétence initiale, mais je suis là aussi pour actionner les leviers, peut-être nourrir un dialogue social territorial aussi.
Voilà. Alors actuellement, dans le cadre de la grande région, donc on est en train d'organiser des conférences territoriales avec les acteurs donc, de la formation et de l'orientation. Donc là, on a eu la semaine dernière, on était sur Saintes. Pour le territoire, pour une partie en fait du territoire de l'Exploitou-Charente, les échanges en fait continuent. Donc ça s'appelle, on est les rois de l'acronyme, le CPRDFOP.
Alors entre nous, je pense que dans la salle, les acronymes, on lutte plus contre. Hein. On ne vit qu'avec ça. Hein.
Mais chez nous, c'est quand même...
Le CPRDFOP,
voilà,
le il faut CPRDFOP. Un peu de travail de prononciation.
C'est ça.
Après, vous l'appelez comment? CPRDFOP.
CPRDFOP.
Oui, mais il y a peut-être une piste là. Vous avez simplifié la chose, c'est pas mal.
Donc, dans le cadre en fait de cette consultation régionale sur l'offre de formation, donc s'ancre à l'intérieur en fait, toute une démarche d'évaluation sur les besoins du territoire, qu'on soit donc représentant d'entreprise, donc il y a beaucoup les OPCA donc interviennent en fait au sein des consultations, les syndicats d'entreprise, donc d'où je connais aussi le Syntec, le CIRPIN, etc. Ouais, je vais retenir le menton.
Voilà, truc, ça vous sert à vie. Hein. Si un jour vous intervenez en public, tant pis, on ferme l'enregistrement. Vous posez le micro sur le menton, tous les ingénieurs du son vous remercieront et vous avez tout compris. C'est une formation rapide, ça dure 10 secondes.
Donc en fait, ça va nous permettre, ces consultations vont nous permettre de faire évoluer l'offre de formation. L'offre de formation professionnelle continue, mais aussi en fait tous les schémas concernant l'apprentissage. Parce qu'il ne faut pas oublier en fait que l'apprentissage est aussi dévolu aux régions, en tout cas pour une partie.
Absolument, d'accord. Sur le volet qualité, alors on a dit l'intérêt, on a bien noté l'appel du pied sur Datadoc. Et on savait qu'il était, si on va plus loin d'ailleurs, ça sera remonté effectivement. Il y a des perspectives aussi. Pôle emploi s'intéresse beaucoup à Datadoc. Tout ça pour dire que cette espèce d'initiative collégiale n'est pas près de retomber et l'intérêt. Et vous me disiez sinon, sur votre propre process qualité, vous avez l'habitude de travailler avec des fonds FSE et ça induit chez vous une certaine fonctionnement, une culture du process qualité qui est exigeante.
Tout à fait. En fait, on a un process qualité qui est lourd. Pour les organismes de formation, mais lourd aussi en interne en matière de mise en œuvre, parce que dans le cadre du programme régional de formation, en fait, il faut savoir que 50% des fonds qui financent le programme régional de formation, c'est cofinancé par le Fonds social européen. Donc on a des obligations légales.
Vous-même, voilà.
Voilà. Nous, on a des obligations en fait en matière de démarche qualité et un contrôle en fait par le Fonds social européen qui est tout au long de l'année et sur la durée de vie de l'ensemble de nos marchés. Donc du coup, on a pris la décision. Alors c'est peut-être pas la meilleure. Hein, après, c'est la décision qu'on a prise et moi je trouve que c'est plutôt pertinent de se caler sur les exigences du FSE pour pouvoir faire les vérifications. Donc, au même titre que les OPCA, dans le cadre du Datadog, donc, font du contrôle sur place et sur pièce, on a, nous aussi, en fait, du contrôle sur pièce, donc du déclaratif. Derrière ça, on a du contrôle sur place, avec des temps qui sont organisés avec les organismes de formation, mais aussi la possibilité, en fait, d'aller directement, de la même manière, hein, inopinément, et de se dire, tiens, je vais aller faire un tour, je vais voir comment ça se passe. Et de la même façon, en fait, les résultats en matière de démarche qualité, en fait, sont plutôt pas mal. Et quand on fait l'évaluation avec les stagiaires des formations, on se rend compte que la satisfaction, elle est souvent là. Et c'est ce que je vous disais. Généralement, j'essaie toujours de venir faire l'évaluation après le passage des titres ou des certifications. Si on arrive 2 jours avant,
les gens sont stressés, tout ça est humain.
Les gens sont stressés, vous dites non, on n'est pas prêt, non, mais la formation, ça n'est pas du tout, etc.
Je suis pas prêt.
Voilà. Et si on arrive, en fait, 2 ou 3 jours après, ou le jour où on leur annonce qu'ils ont réussi leur certif, la formation
était géniale.
Géniale et merveilleuse, et merci beaucoup.
C'est juste un problème de temporalité. Mais il y a de la bienveillance aussi dans la volonté de concevoir le système pour finalement ce qu'on juge, c'est l'efficience, et que derrière, ça débouche.
Après, en ce qui concerne la formation de formateurs, il faut quand même savoir qu'il y a dans les degrés d'exigence, dans le choix des opérateurs de formation de la région, justement une volonté d'aller vers l'accompagnement, et surtout en fait d'être avec des partenaires organismes de formation qui ont cette volonté de la formation continue de leurs propres salariés. La formation de formateur, être un formateur, c'est un vrai métier.
Oui.
Et la formation de formateur est importante.
Oui. Bruno Cossiol, je crois que vous vouliez réagir. Allez-y.
Oui, en fait, par rapport à ce que nous avons dit aujourd'hui sur cette table ronde, j'ai bien noté effectivement que côté formation, il y avait une grande priorité, et c'est ce qu'on a remarqué nous en discutant entre collègues des OS, sur la formation de management et commercial.
Oui.
Et côté ingé, cadre, administratif, on était effectivement dans l'attente de formation qui était plus ouverte et plus fréquente. Oui, il y a des moyens qui sont donnés. Non, on ne voit pas encore des formations sur le long terme pour s'adapter aux transformations, aux ruptures technologiques que nous vivons, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Premier point. Et deuxième point, on est également vigilant sur, on en a parlé tout à l'heure, sur l'e-learning. L'e-learning, c'est bien, mais la société, les sociétés, les entreprises ont un objectif, je pense également, de lien social. Concrètement, si chacun fait sa formation dans son coin en cliquant devant l'écran, ok, c'est peut-être bien, mais qu'en est-il des journées d'expérience, de retour d'expérience comme nous, on vit aujourd'hui? Voilà. Et est-ce que il y aurait pas trop de théorie comparée à la pratique? Donc c'est le message que nous, en tant qu'organisation syndicale, on veut vous donner aujourd'hui. Oui à la formation, mais oui au long terme, et oui au retour d'expérience et au lien social dans les sociétés de la Nouvelle-Aquitaine.
Merci. Excellente question. Merci Bruno de l'avoir posée. Le digital, quelle place le digital à la fois dans vos pratiques, à la fois comme offreur, on verra tout à l'heure, mais aussi comme entreprise utilisatrice, chère Caroline?
Alors nous, aujourd'hui, on a une consommation de la formation, vous me permettrez le terme, qui est plutôt traditionnelle, puisqu'on ne fait pas du e-learning, ni. On a un petit peu de mal à rentrer dans tous ces nouveaux systèmes de formation à distance, parce qu'effectivement, on se rend compte que quand on a testé, on a eu testé des fois des formations un peu à distance, on n'a pas forcément eu le même retour qualitatif que quand les formations se sont faites en présentiel.
Ouais.
Voilà, parce qu'il y a toujours plusieurs paramètres qui entrent en compte. Quand on fait la formation à distance, il faut que le formé soit très motivé.
Ouais.
Effectivement, des fois, on ne sait pas s'il est complètement ancré dans la formation ou s'il n'est pas en train de consulter ses mails ou faire autre chose à côté. C'est un peu le risque. Des fois, la formation peut être saccadée aussi. Je vais prendre 5 minutes et puis je reviens sur quelque chose. Je ne suis pas concentrée à mon apprentissage, en fait.
En tout cas, dans la conception des contenus, c'est un paramètre qui doit...
Et puis nous, on a quand même un gros problème aussi par rapport à ces formations à distance où il faut avoir un accès à Internet ou autre.
Ouais.
C'est qu'on a des problématiques de sécurité. Voilà,
ah oui.
Puisque nous, on travaille sur des sujets assez sensibles. Et
du secret défense ou du...
Voilà, notamment du confidentiel défense. Et on a des paramètres de sécurité informatique qui sont très élevés. Et donc, à chaque fois qu'on a à mettre en place ce type type de communication de formation, c'est un peu le parcours du combattant pour lever les pare-feux. Enfin, bon, je suis pas une spécialiste.
Non, mais ça peut être un vrai frein
de l'informatique, mais c'est vrai que c'est déjà un vrai frein d'accès à ce type de formation.
D'accord. Jean-Charles Duplat, vous investissez, je crois même à titre personnel, hein, sur le sujet. Vous travaillez au sein d'un groupement, me semble-t-il, sur la digitalisation, sur les contenus e-learning. Dites-moi où vous en êtes sur le sujet.
Oui, enfin non, c'est effectivement.
Je pense à Genius.
Oui, un groupement national. Alors là, ça répond à autre chose. Parce que moi, j'étais dans mon coin, dans l'Aquitaine. Alors d'ailleurs,
belle région.
Je vous l'ai dit, vous ne l'avez pas répété, mais si j'ai créé ma boîte il y a 30 ans, c'était pour rester à Bordeaux.
Oui, c'est
voilà,
vrai.
C'était ma motivation de chef d'entreprise. Voilà, ça c'est fait. Bon, et puis quand on est à Bordeaux, c'est bien. Alors il paraît qu'il ne faut jamais citer ses concurrents. Hein. Ça, je l'ai appris chez DCF, mais là, je vais en citer un.
Ouais.
C'est Cegos, qui est le numéro 1 de la profession.
Ouais.
Sauf que quand on veut faire de la bureautique en inter à Bordeaux, quand on est un grand groupe, on a du mal à avoir une journée ou deux journées. Et donc, on s'est regroupé avec un Parisien, un Rouennais, un Clermontois. On était quatre. On a dit si on montait un réseau national. Mmh. Maintenant, on est 17. Et le groupe Aginus maille tout le territoire, ce qui permet de répondre à des appels d'offres nationaux et d'être présent un petit peu partout. Et effectivement, on se pose la question, mais madame a répondu, la digitalisation, oui, mais petit à petit, on va sûrement faire des progrès, mais ça répond pas tout de suite. Alors moi, j'ai un souvenir, j'étais fournisseur, je suis plus aujourd'hui, de l'aérospatial,
ouais,
pour la bureautique toujours, et on faisait du e-learning chez eux, hein, donc il y avait des salles, et on envoyait un formateur qui répondait, et puis les gars se connectaient, etc. Public, aérospatial, d'ingénieurs. Hein, donc des gens qui viennent, etc. Et ben, le principal boulot du formateur, c'était de s'assurer que le gars s'inscrivait pour la prochaine fois, parce que sinon, ils arrêtaient.
Ouais. Hein,
voilà. Donc c'est ça un petit
c'est
peu...
C'est pas le... si simple.
Non. Et puis, je voudrais passer un message, puisque bon, apparemment, il y a beaucoup d'OF aujourd'hui.
C'est un peu l'idée.
Je ne savais pas si c'était numérique ou OF, mais il y a beaucoup d'OF. Eh bien, la formation, c'est un plaisir. Et moi, j'aime bien voir les stagiaires qui viennent, même pour de la bureautique, mais quand c'est du management, RH, c'est encore... Mais ils viennent passer un jour, deux jours, une semaine, mais ils prennent plaisir. C'est une parenthèse aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, on fait du distanciel. Mais quand vous avez un gars avec un casque tout seul dans une salle connecté à un centre à Paris, à Lyon ou que sais-je, c'est technique. C'est pour des ingénieurs, des trucs comme Cisco et compagnie. OK. Il faut le faire, ils le font bien. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et pour moi, la formation encore du présentiel. Alors après, avec le digital, numérisation, effectivement, il y a des tas d'outils qu'on va pouvoir utiliser. Et puis, il y a de nouvelles formations eh bien, sur tous les réseaux sociaux. Et là, c'est des formations d'une demi-journée. Et où, comme l'a dit monsieur, et comme ça va faire la transition avec monsieur Gracier, eh bien, après, il faut pratiquer.
Oui. Stéphane Gracier sur le digital. Avant de passer la parole à notre représentant de l'État qui nous a fait une autre vidéo sur le sujet.
Je vous rejoins complètement. Nous, on est dans la rematérialisation en règle générale. C'est-à-dire qu'on sert du web pour faire un raccourci, pour rencontrer les gens. C'est qu'un outil. Donc le questionnement éthique dans tout ce qu'on fait est au cœur des débats. Mais on va beaucoup communiquer là-dessus jusqu'à la fin décembre, là, d'ailleurs. Je pense que le béaba, c'est la stimulation. Quel que soit le mode opérationnel de transmission du savoir, il ne pourra être efficace qu'à partir du moment où la personne qui reçoit le savoir aura fait le choix elle-même d'aller chercher cette information, quel que soit le mode de transmission. Quel que soit le mode de transmission. Dans tous les cas, en tout cas dans nos métiers, où effectivement quand ça devient technique, on est plus sur des profils de gens qui sont passionnés. Quand on a des jeunes qui viennent nous voir, bonjour, je veux faire du développement PHP, Python, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, j'y touche un peu, mais je travaille avec des bons. Mais ils leur disent tous, écoute, si tu veux donner des cours à tes profs, tu vas à l'école. Sinon, c'est le soir que ça se passe. Et c'est une réalité. Dans nos métiers qui évoluent extrêmement rapidement. Et si vous voulez, moi, je lutte tous les jours contre les fausses croyances, contre les préjugés, les préfondés. Je discute avec des taxis qui pleurent parce que leur métier disparaît. Et je leur parle des briquetiers qui, à l'époque de l'arrivée de l'électricité à Paris, ont manifesté pour dire non à l'électricité. Qui s'en souvient aujourd'hui? Notre civilisation évolue actuellement. Donc nous, on souhaite simplement apporter cette vision qu'on a de cette évolution pour dire, bon, ok, on n'est pas mûr, on n'est pas entré en résilience face au changement, mais c'est pas parce qu'on n'a pas voulu rentrer en résilience que le changement n'est pas là.
Et puis c'est pas inéluctable non plus. On peut sortir.
C'est pas inéluctable. Soit on est victime, soit on est précurseur. Voilà. Et si on se tient informé de ce qui se passe, on n'a pas le choix, hein, parce que sinon on se le prend dans la tête à un moment ou à un autre. Je suis pas né avec le web. Mon papa avait un Amstrad quand j'étais gamin, était ingénieur. Les consoles, je les ai toutes jetées par la fenêtre. J'ai toujours eu horreur des jeux informatiques. Et puis un jour, je découvre Sugar CRM dans les années 2000. Et je passe des pages jaunes papier hein, pour faire de la prospection à un outil qui me permet de capitaliser sur ma connaissance. Je pense que vous connaissez tous les outils de gestion de la relation client qu'on appelle les CRM.
Les CRM, ouais.
Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, tiens, il y a des trucs à faire avec tout ça, il ne faudrait pas que ça passe à côté. Donc le sujet est là vraiment, et encore une fois, ça évolue tellement vite que les modes classiques mis en place par les organismes tiers certificateurs hein, qui justifient de leur existence pour apporter cette garantie qu'il y a de la confiance, aujourd'hui, on peut malheureusement s'en passer. Donc soit on revoit le modèle tous ensemble, on réfléchit, on se pose les bonnes questions, ou soit à un moment ou à un autre, il y a un modèle civilisationnel qui va disparaître. On va peut-être pas le voir tout de suite, hein, mais c'est en cours.
Tout ça n'a rien d'effrayant, mais il faut avoir peur de rien. Je parle des blockchains. Ou
ouais, les blockchains, vous pouvez en parler. Ouais.
Hein, et ayant en toile de fond un sujet source de transformation importante. On va regarder une petite vidéo de 2 minutes de Stéphane, Rémy sur... Eh bien, le fait que le réglementaire est censé se mettre en situation de nous accompagner dans cette transformation, notamment en assouplissant les contraintes formelles. On démarre la vidéo. Voilà, super.
La loi du 8 août 2016, donc la loi dite travail, a modifié ce qu'on appelle communément la définition d'action de formation en précisant que désormais ces actions de formation elles peuvent être organisées sous la forme d'un parcours. Un parcours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en compte aussi, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'accompagnement du bénéficiaire, la personne qui suit les formations, l'évaluation. Évidemment, ça entraîne des conséquences sur la manière dont on suit ces actions de formation, la manière dont on les trace, puisqu'il faut évidemment justifier, hein, vous avez bien... En tête, évidemment, qu'il y a des financements qui sont alloués et c'est important de bien pouvoir s'assurer que les fonds sont bien utilisés. Et donc, ça change la manière de suivre ces actions de formation. Donc, ce décret du 22 mars 2017, qui est récent, donc il faut que les acteurs se l'approprient, dit grosso modo que l'assiduité du stagiaire, bien sûr, elle se fait à travers des justificatifs de présence classiques, les feuilles d'émargement, voilà, matériellement, je justifie que je suis bien présent dans cette salle de formation. Là, on passe sur des justificatifs qui sont plus qualitatifs et puis qui sont liés aussi aux technologies, c'est-à-dire qu'on prend en compte tout ce qui contribue à justifier de la participation de la personne à un cursus de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on accueille d'autres justificatifs que ces feuilles d'émargement, qui sont issus notamment de tout ce qui est support tablette, badgeage, smartphone. C'est ça le sens de ce décret, c'est d'accueillir plus largement d'autres types de justificatifs qui sont finalement des justificatifs qui sont plus qualitatifs parce qu'ils renseignent sur l'assiduité, sur la manière dont la personne s'investit dans son parcours de formation, notamment lorsqu'il y a du e-learning, plutôt que l'acte de présence qui a... son utilité lorsqu'on est sur du face-à-face pédagogique, par exemple, mais qui perd évidemment de son intérêt lorsqu'on fait du e-distance, par exemple.
Donc, en tout cas, la volonté, c'est que le réglementaire ne soit pas bloquant et puisse permettre la transformation. On a vu que les sujets fondamentaux n'étaient pas forcément uniquement là. Peut-être on va se garder 4-5 minutes pour conclure. Projection. Qui est la vôtre, on titre sur 2020, mais 2020 c'est demain après-demain, on est à la veille d'une réforme. Comment est-ce que vous anticipez l'avenir proche dans l'évolution de vos besoins, dans votre rapport à la formation, l'évolution de votre offre, vos rapports avec le FAFIEC aussi? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous avez des attentes particulières? Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit tour de table? Qui commence? Allez-y!
Ça a été dit, mais je voulais remercier le FAFIEC d'être enfin présent en région Aquitaine et maintenant Nouvelle-Aquitaine. Alors je le dis parce que jusqu'à l'année dernière, on a parlé de l'OURA, de règles, c'était un OPCA hors la loi, excusez-moi, maintenant vous êtes. Mais oui, puisque vous étiez à cheval sur deux régions.
Mais la carte
régions.
De région a changé.
Et la loi qu'on a pour nous. Ouais. Et donc, merci. Et puis bravo avec David, parce qu'il remue le territoire avec son équipe. Donc voilà, message au Fafiec. Je crois que ça a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à me répondre. Ça y est, vous êtes référencé. Alors double merci. Et puis, ça bouge en fait. Et on a besoin de travailler avec nos OPCA. Et alors ça, c'est mon autre casquette de SN. J'hésite pas à les utiliser. Et en
parce
particulier
adhérent,
en management d'équipe. Voilà.
D'accord.
Message positif.
Oui, évidemment.
Ah, et puis, je passe la parole à mon voisin en disant que dans la formation. Le paritarisme est très important et j'y crois. Là, je mets ma casquette MEDEF.
Et là, vous faites plaisir à votre, mais à votre voisin Bruno Cossiole.
Ok. Non, mais effectivement, je reviens sur si on essaie de se projeter sur 2020, il y a un grand chantier qui nous attend, organisation syndicale. Je vous cache pas que les ordonnances, on sait pas trop comment on va travailler avec vous. En tout cas, nous, on est là. C'est important pour les organismes de formation. Qui a une certaine vision sur un certain nombre d'années et on est à fond pour vous aider en respectant nos valeurs. Voilà. Je vous remercie
Merci.
De votre participation.
Merci. Karine Bouillet, alors la région, le mandat, le message au Fafiec.
Donc nous, nos décisions, elles sont quand même liées au mandat au mandat
oui,
de nos politiques. Donc 2020, je vais pas vraiment pouvoir vous en parler parce qu'en fait moi je suis une technicienne, je suis pas une politique.
Vous mettez en musique la
voilà. Après après je pense que comme nationalement la formation professionnelle, l'insertion des publics qu'ils soient demandeurs d'emploi ou qu'ils soient jeunes, quels que soient les niveaux de qualification de base et l'envie en fait de faire progresser ces publics, elle restera, je pense, quelque chose de prégnant. Donc la région Aquitaine et maintenant la région Nouvelle-Aquitaine a toujours été un acteur assez fort sur les dispositifs de formation. Je pense que actuellement le président de la région Aquitaine, Alain Rousset, qui est devenu président de la région Nouvelle-Aquitaine, a toujours été un acteur assez dynamique sur ce sujet. Donc je pense qu'on va continuer là-dessus. Et moi, je n'attends qu'une chose, c'est de savoir en fait ce qu'on va nous demander maintenant de mettre en place avec ces nouvelles ordonnances, avec les dispositions sur l'apprentissage, vraiment prendre en main tout ça et continuer à travailler avec nos partenaires. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'appareil de formation du territoire, c'est vraiment du partenariat. C'est pas, on n'est pas juste acheteur de formation.
Ça, on l'a bien compris depuis le début de votre intervention. Caroline Romero.
Bien, pour les années à venir, ça va être de continuer de former voilà, nos collaborateurs pour pouvoir assurer des prestations de qualité voilà, auprès de nos clients et puis aussi assumer et assurer notre responsabilité en tant qu'employeur sur l'employabilité de nos collaborateurs, ce qui est très important. Voilà. Et au niveau du Fafiec, maintenir les relations voilà, que l'on a depuis plusieurs années, des relations vraiment de qualité. Avec des conseils toujours à la pointe des dernières actualités juridiques.
Donc voilà. Ne changez pas.
Ce qui va être très important, parce que là aujourd'hui, avec toutes les ordonnances qu'il y a, on a un petit peu de mal, nous, en entreprise,
évidemment,
à suivre tout ce flot de nouveautés. Et voilà. Et on compte aussi sur le Fafiec pour nous accompagner dans toutes ces évolutions législatives.
Message entendu. Très vite, Stéphane Gracier, est-ce que vous avez un petit mot?
Nous on va continuer à nous appuyer sur des labos de recherche en sciences cognitives là pour être au fait de toutes les découvertes en matière de méthodologie d'apprentissage de mémorisation pour être plus efficace sur la pédagogie en elle-même. Je vais vous donner le nom d'un site qui s'appelle OpenLaw, c'est dans la même lignée que Wikipédia, etc. Par rapport au Big Data, c'est un site qui donne un accès en fin de compte à des données liées à toutes les évolutions juridiques. Pour faire des sites plus simples que Légifrance. Et si vous allez sur OpenLaw, vous allez avoir une idée de cette évolution de la formation, puisqu'OpenLaw propose des formations aux cabinets d'avocats pour leur apprendre à fabriquer des intelligences artificielles pour aller chercher les lois et faire de la prédiction sur la jurisprudence, par exemple. Donc c'est complètement ouvert, je vous invite à aller voir OpenLaw, j'ai aucun lien avec eux, mais comme ça vous aurez une idée de ce que la formation est en train de devenir, en dehors de, je dirais, des... des cadres institutionnels classiques.
Donc on aurait dû lire Open Law ce matin pour savoir ce qu'elle est annoncée demain, après-demain, la semaine prochaine.
En tout cas, il faut commencer à travailler
on
sur le sujet.
On va regarder. Non, je plaisante. Merci pour ces éléments de partage. Bah, écoutez, je vous propose d'applaudir et de remercier Karine Bouillet, Bruno Cossiol, Jean-Charles Duplat, Stéphane Gracier, Caroline Romero. Merci à vous.